les versets 11 à 18. L'évangile de Jean, chapitre 10. À partir du verset 11, dit Jésus, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jusqu'ici, notre lecture. Après le pain de vie, la lumière du monde, la porte des brebis, Jésus déclare maintenant qu'il est le bon berger. « Je suis le bon berger », dit Jésus à ses disciples dans le passage que nous venons de lire. Rappelons-nous que Jésus faisait cette déclaration face aux pharisiens qu'il qualifie juste avant de brigands et de voleurs, car il vient juste de jeter dehors l'aveugle né au chapitre 9, à qui Jésus vient de rendre la vue. En cela, ils ont rejeté une personne que Jésus a bien voulu accueillir dans sa bergerie, puisque cet aveugle né confessait sa foi en Jésus-Christ. Il disait au chapitre 9, les versets 35 à 38, « Je crois, Seigneur. » Et puis, l'évangéliste Jean prend le temps de préciser que cet aveugle guéri commence à adorer Jésus au verset 38 de chapitre 9. Plus encore, les pharisiens auxquels Jésus a eu affaire avaient exactement les comportements dénoncés par le prophète Ézéchiel au chapitre 34 de son livre. Ils s'occupaient d'eux-mêmes au lieu de prendre soin du peuple de Dieu. Ils profitaient des biens du peuple sans se mettre à son service. Ils n'ont pas porté secours à ceux qui étaient dans le besoin et ils n'ont pas été près de ceux qui étaient malades. Bien au contraire, ils se sont comportés avec tyrannie à l'égard du peuple et ils ne se sont pas inquiétés de ceux qui sont égarés loin du peuple. Ainsi, le peuple est fragilisé et il s'est retrouvé à la merci de tous les dangers. Ce genre de comportement a été aussi dénoncé par le prophète Jérémie. La dernière fois que je vous parlais de cela, j'ai oublié de vous transmettre les références. Mais en fait, c'est le chapitre 23, les huit premiers versets du chapitre 23 de Jérémie, où il fait un contraste entre les mauvais bergers de l'époque, les mauvais conducteurs religieux, et le bon berger que Dieu allait envoyer. Et puis au chapitre 25, bien sûr, il parlera d'un jugement très sévère contre ces mauvais bergers. Face donc à ces faux bergers, face à ces mercenaires, Jésus se présente comme le bon berger, un berger prêt à aller aussi loin que nécessaire pour le bien de son troupeau, de ses brebis. Le terme employé ici par Jésus pour dire qu'il est le bon berger désigne chez les Grecs la bonté, une bonté qui s'exprime par un amour désintéressé, par un amour sans calcul, un amour tourné vers l'autre et non pas vers soi-même. La bonté de Jésus s'exprime concrètement en ce qu'il donne sa vie pour ses brebis. C'est un don de soi total et complet. Ce don de soi n'est pas fondé sur l'intérêt, comme le faisaient les pharisiens, comme le faisaient aussi les faux bergers, mais il vise bien le bien des brebis. Contrairement aux mauvais conducteurs religieux, Jésus n'est pas motivé par des intérêts personnels, mais bien au contraire, il est animé par un amour exceptionnel, remarquable pour ses amis, pour ses brebis, pour son troupeau. Cet amour conduira Jésus à donner sa vie pour ses amis. Et au chapitre 15, et dans l'évangile de Jean, il dira « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et puis, il se tourne vers les disciples et il leur dit « Vous êtes mes amis. » Au verset 13, 14 du chapitre 15 de l'évangile de Jean. L'amour de Jésus, le bon berger pour ses brebis, est décrit dans les versets 11 à 18 du texte que nous venons de lire de trois manières. D'abord, le berger s'engage quotidiennement au service des brebis, sont les versets 11 à 13. Ensuite, le berger développe une connaissance personnelle, une relation personnelle et profonde avec ses brebis. Et c'est les versets 14 et 16 qui nous disent cela. Et enfin, le berger acceptait à aller aussi loin que possible pour sauver ses brebis, c'est-à-dire se sacrifier, les versets 17 et 18. L'amour du bon berger pour ses brebis se manifeste concrètement dans l'engagement quotidien et régulier qu'il prend auprès de ses brebis. Dès le lever de soleil jusqu'à son coucher, le berger est auprès de ses brebis en pourvoyant à leurs besoins. Et c'est ce qu'il nous est décrit dans les deux premiers versets que nous avons lus, les trois premiers versets que nous avons lus. Un berger ne compte pas, bien entendu, ses heures. Ses journées, la journée débute souvent vers 5 heures du matin pour se terminer vers 22 heures le soir. Et cela chaque jour, y compris les jours fériés. Être berger, c'est une profession, oui, à plein temps, une profession très exigeante, très prenante. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle nos concitoyens, en particulier, se détournent de cette profession. On estime actuellement, en France, qu'il y a à peu près 700, uniquement 700 bergers professionnels, et dont la plupart sont à l'âge de la retraite. Enfin, ils s'approchent de l'âge de la retraite. Les exigences liées à la profession de berger ne sont pas nouvelles. Dans l'Ancien Testament aussi, les bergers devaient trouver du vert pâturage, des eaux, même sur une terre pieuse et aride. Le psaume 23, justement, il y a cette image d'un désert qui est derrière. Malgré qu'il y ait un désert, le berger, donc, pourvoit et conduit son troupeau dans des verts pâturages. Le berger devait aussi protéger les troupeaux des intempéries, des bêtes sauvages. Et lorsqu'une brebis est égarée, il ne rentre pas à la bergerie avant de la retrouver. Notamment Ézéchiel 34 fait allusion et bien sûr Matthieu 18. Plus encore, le berger était tenu de rembourser toute bête perdue, à moins qu'il ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa prévoyance et de sa volonté. Et c'est dans Exode 22 que cela est dit. Le berger donc idéal devait être fort, dévoué et désintéressé. Le berger se consacre entièrement pour ses brebis, et ce, dès le début de la journée jusqu'au soir. D'abord, chaque matin, le berger vient appeler ses brebis pour les conduire vers des verts pâturages. Les journées commencent tôt le matin, pas de place donc pour la grasse matinée, à moins qu'il soit bien sûr d'eux dans l'exploitation pour s'entraider. Durant toute l'année, qu'il soit beau ou qu'il fasse mauvais, le berger doit assurer la nourriture pour ses brebis. Inutile de s'étaler sur le froid matinal en hiver, ou encore la chaleur pendant l'été. Il est vrai que dans notre monde moderne, il y a des élevages où les brebis ne sortent presque jamais de la bergerie. Avec les moyens modernes, les bergers achètent du foin, et puis les brebis sont nourries tout au long de l'année à l'abri du froid et du soleil. Mais tel n'est pas le cas dans le Proche-Orient ancien, et même jusqu'à nos jours, dans la plupart des régions du monde, au Moyen-Orient, même en Méditerranée, mais de l'autre côté de la Méditerranée, il n'y a pas tant de moyens que cela. Tout comme ce berger attentif à ses brebis, aux besoins de ses brebis, Jésus prend soin, lui aussi, de nous chaque matin. Dès le lever du soleil et avant même que la journée débute, le Seigneur Jésus pense à nous et intervient, prend soin de nous. La première chose que je veux mentionner ici, et que nous recevons chaque matin, mais tellement nous la recevons chaque matin que nous l'oublions parfois, c'est le souffle de vie que le Seigneur nous accorde. Nous avons tellement l'habitude de respirer chaque matin qu'il nous arrive parfois, en effet, d'oublier que ce souffle de vie est un don de Dieu pour nous, est un don quotidien de Dieu pour nous. Si nous continuons chaque matin à avoir la vie, le mouvement et l'être, nous dit l'apôtre Paul dans Acte 17, c'est grâce justement à Dieu, car personne, dit Jésus, ne peut prolonger sa vie, ne serait-ce que de quelques instants. Au serment sur la montagne, dans chapitre 6 de Matthieu 6, il dit « Personne ne peut prolonger sa vie, ne serait-ce que de quelques instants. » C'est pourquoi l'apôtre Jacques avertit ses auditeurs et les invite à ne pas oublier que chaque jour est un don de Dieu. Écoutez-moi, dit Jacques à ses auditeurs, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Savez-vous que ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants, et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire dès Jacques à ses auditeurs et à nous. Si le Seigneur le veut, nous vivrons. Si le Seigneur le veut, nous vivrons, nous ferons ceci et nous ferons cela. Si nous arrivons à accomplir nos activités journalières, c'est parce que le Seigneur continue à nous accorder chaque jour, à nous accorder sa vie, la vie dont nous avons besoin. En prenant le temps de considérer, en effet, chaque jour comme un don exceptionnel de Dieu, comme un don de vie exceptionnel que Dieu nous accorde, peut-être nous gérions mieux notre vie et aussi notre journée, et ne pas peut-être la gâcher parfois, comme il nous arrive d'avoir le sentiment à la fin d'une journée de ne rien presque faire, en tout cas d'avoir gâché notre journée. La deuxième chose que nous recevons du Seigneur dès le matin, ce sont les forces nécessaires qui nous permettent de tenir tout au long de la journée. Les forces pour accomplir la tâche, les tâches à laquelle il nous a appelés, notre vie professionnelle, tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc ce ne sont pas simplement ceux qui sont appelés à un ministère au sein de l'Église, qui sont considérés comme ayant une vie consacrée au Seigneur, une vie professionnelle entre guillemets consacrée au Seigneur, mais aussi tout ce que nous pouvons faire dans notre vie professionnelle, dans les études, tout ce que le Seigneur met devant nous, nous pouvons le faire pour la gloire du Seigneur et nous le faisons aussi avec les forces qu'il veut bien nous accorder. Et pour accomplir donc cette responsabilité, le Seigneur nous donne ses forces dont nous avons besoin, nous accorde aussi des compétences et il nous donne aussi l'assistance de son esprit. Il est vrai que notre vie professionnelle dépend en partie des efforts déployés, mais je crois qu'il serait très réducteur de penser que cette réussite dépend uniquement de nos efforts. Et même si tel est le cas, qui nous a donné ces forces pour justement réussir cette vie professionnelle? Et cela devrait aussi faire réfléchir même les incroyants sur ce point. Parfois, il nous est difficile à nous humains de voir au-delà du bout de notre nez, nous arrêtons si souvent à nos efforts, aux efforts que nous déployons, au sacrifice que nous avons consenti pour atteindre un objectif ou pour atteindre un but fixé. Mais pourtant, la parole de Dieu, le Seigneur, nous invite chaque jour à considérer que si nous arrivons à accomplir la tâche qui est la nôtre, c'est aussi grâce au soutien et aux forces que le Seigneur veut bien nous accorder chaque jour. pour nos frères et sœurs éprouvés par la maladie, par tout simplement les épreuves de la vie, le Seigneur nous donne aussi, leur donne à eux aussi les forces adaptées pour faire face à ces temps difficiles, pour supporter les différentes douleurs ressenties et pour continuer à se battre, oui, avancer, à se battre contre la maladie. Donc que nous soyons formes ou malades, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, nous dit le prophète Jérémie dans le livre de Lamentations, mais elles se renouvellent chaque matin envers nous. Si nous sommes dans l'épreuve, nous pouvons faire la même prière que celle du prophète Isaïe. Seigneur, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin. Sois notre aide, notre délivrance au temps de la détresse. Et si le Seigneur nous donne les forces, et si nous vivons, je dirais bien, le Seigneur nous accorde de passer des bons moments, il le fait aussi, et j'espère que parfois, et même nous passons beaucoup de bons moments quand même que le Seigneur nous donne de vivre. Là, nous pouvons faire la prière de Moïse, la nôtre. Rassasie-nous tous les matins de ta bonté, Seigneur, et nous crierons de joie, pleins d'allégresse, tout au long de nos jours. Ainsi, nous recevons de notre Seigneur ses ressources, ses grâces, ses bontés, dès le matin, tout comme les brebis reçoivent aussi de leur berger les soins dès le lever de soleil. Après avoir conduit les brebis vers divers pâturages, dès le matin, le berger se donne pleinement pour les brebis, tout au long de la journée. Il pourvoit à leurs besoins en les conduisant sur des terres où elles peuvent brouter de l'herbe et non pas sur des terres arides. Il les conduit vers des cours d'eau pour qu'elles puissent boire aussi, ainsi de suite. Donc il ne suffit pas, en plus, il ne suffit pas d'emmener son troupeau sur une parcelle d'herbe. Il faut connaître les diverses variétés fourragères de façon à assurer à son troupeau une bonne alimentation, tout en modelant bien sûr, tout en modelant le paysage, en laissant le temps aux différents espaces, de se renouveler et de se reconstituer. De même qu'un berger donc pourvoit aux besoins de ses brebis, le Seigneur Jésus, le bon berger, pourvoit lui aussi aux besoins de ses enfants. Pour assurer ses disciples face aux besoins de la vie, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas, redit Jésus à ses disciples, pour le lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. Chaque jour se fait sa peine. C'est Matthieu 6. Par ces paroles, que le Père Céleste pourvoira à leurs besoins et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de quoi manger ou se vêtir. Cette promesse est pour nous aussi, car le Seigneur continue à pourvoir à nos besoins selon la richesse et avec gloire en Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre Paul en Philippiens 4. En disant cela, je ne peux pas m'empêcher aussi de penser au cas particulier, en particulier, à quelques cas précis où, justement, ici ou là, on peut rencontrer des difficultés, notamment lorsqu'on recherche du travail. Je sais que quelques jeunes en fin d'études cherchent depuis un moment à trouver des stages, mais ils n'arrivent pas, ou bien lorsqu'on cherche tout simplement du travail, avec toutes les qualifications qu'on a, mais on n'arrive pas aussi à trouver, donc il y a des réelles difficultés. Mais il me semble néanmoins, je crois qu'il y a là que le Seigneur nous invite à la confiance, que le Seigneur interviendra parfois il le fait à la dernière minute, mais il interviendra certainement. Nos vies, notre vie ne peut pas lui échapper, ne peut pas échapper à sa direction et aussi à ses bontés et à son amour. Je ne peux que donc nous encourager, en particulier encourager ceux qui cherchent, qui sont dans l'inquiétude et qui cherchent le travail, qui cherchent, qui sont dans le besoin, les encourager à la lumière de toutes ces paroles rassurantes de notre Seigneur Jésus-Christ et à la lumière du reste de la parole de Dieu, à garder notre confiance en lui, car il agira. Il agira au temps opportun. La promesse que de Dieu d'agir nous a été rappelée aussi par la devise. Elle nous est rappelée, j'espère, à chaque fois que nous lisons ce texte, par notre devise cette année, qui nous dit « Remets ton chemin au Seigneur, confie-toi en lui, et la promesse, il agira. » C'est donc à la confiance que nous sommes encouragés, car le Seigneur, le bon berger, saura pourvoir aux besoins de chacun d'entre nous. En plus de pourvoir aux besoins quotidiens de ses brebis, le berger soigne les brebis blessées. Prend le temps d'accompagner celles qui boitent, de marcher au rythme de celles qui sont faibles. Le prophète Isaïe nous décrit un berger qui allait venir, que Dieu allait envoyer, et qui prend soin de ses brebis, qui tient compte de la situation de chacune, qui s'adapte à la marche de chacune. Il dit au chapitre 40, que j'ai eu l'occasion de lire dimanche dernier, « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il rassemblera les agneaux dans ses bras, sur son sein, et les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. » Les petits agneaux, qui ne peuvent pas marcher seuls, le Seigneur les porte dans ses bras. Quant aux brebis qui allaitent, le Seigneur les conduit doucement, sans violence, sans brutalité. Et dans notre cheminement personnel avec le Seigneur, nous avons vu à bien des reprises la patience du Seigneur se manifester à notre égard. Bien que nous l'ayons attristé par moments, il est venu nous rejoindre, nous relever, bien que nous ayons été infidèles à son égard par moments, lui est resté fidèle, a toujours demeuré fidèle jusqu'au bout. Le Seigneur avance avec nous à notre rythme. Il prend le temps de nous délivrer de nos vices, de nos mauvaises habitudes, et avec le temps, il nous libère de nos liens, même ces liens qui remontent parfois à notre tendre enfance, et il nous guérit même des blessures les plus profondes et les plus lointaines. Notre Seigneur n'est pas seulement un berger qui aime son troupeau dans son ensemble, mais aussi un berger qui connaît chacune de ses brebis. C'est pourquoi il accompagne chacun d'une manière personnelle et s'adapte à chacun dans son parcours. Après l'engagement matinal et les soins journaliers, le berger conduit le troupeau dans la bergerie en fin de journée. Ce chemin de retour n'est pas sans danger. Les loups, à la tombée du soleil, tentent de s'emparer de quelques brebis, en particulier de celles qui sont faibles. Les chiens errants n'hésitent pas aussi à attaquer le troupeau pour avoir leur nourriture du soir, sans oublier les autres animaux, en particulier les ours, ici en France, mais je ne crois pas qu'ils existaient autant au Proche-Orient ancien, et pour lesquels le troupeau restait toujours une proie. Il y a des dangers sur le chemin de retour à la bergerie. Face à ces dangers, à tous ces dangers, le mercenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne les brebis. Il s'enfuit. Et il laisse le loup faire son travail. Car les brebis ne lui appartiennent pas. Il ne va pas mettre sa vie en danger pour les brebis. Il n'a rien à faire des brebis, sinon profiter d'elles. Contrairement donc au mercenaire, le bon berger va jusqu'à donner sa vie pour sauver ses brebis. Il ne va pas fuir à la première difficulté. Il ne va pas abandonner son troupeau. Bien au contraire, il va jusqu'au bout pour protéger chacune de ses brebis après les avoir bien nourries. Pour faire ressortir l'importance que Jésus accorde à chacune de ses brebis, il donne la parabole de la brebis perdue. Le berger laisse les 99 pour aller chercher la centième perdue. C'est Matthieu 18 ou Luc 15. Cela montre combien chaque brebis est importante aux yeux de Jésus. Aucune n'est remplaçable. Aucune n'est remplaçable. C'est pourquoi il tient à chacune d'entre elles. Jésus promet de ne pas perdre aucune des brebis que le Père lui a confiées. Et il dit au verset 27 et verset 29 de ce chapitre, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous. Personne ne peut les arracher de ma main, de la main du Père. » Jean 10, les versets 27 à 29. C'est donc avec confiance que nous pouvons avancer, même au cœur de la nuit, comme le dit le cantique. C'est avec confiance, car notre Seigneur, le bon berger, veille sur nous, sur nos pas. Il ne laissera rien, ni personne, ne séparer de son amour. Cet engagement de notre Seigneur à l'égard de ses brebis, à l'égard de ses enfants, de ses disciples, a été tellement bien saisi par l'apôtre Paul qu'il le décrit d'une manière remarquable à la fin de l'épître du chapitre 8 de l'épître aux Romains. Je vous lis juste sa conclusion, mais c'est un chapitre que ça vaut le coup de le relire si vous avez un peu de temps dans la semaine. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les circonstances, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, à partir du verset 38 et le verset 39. Face aux difficultés de la vie, face aux souffrances que nous rencontrons, face aux douleurs qui nous traversent parfois, nous pouvons nous attacher à cet amour infini manifesté en Jésus-Christ. C'est un amour solide, c'est un amour sûr, c'est un amour bien réel, un amour sur lequel nous pouvons nous attacher, même lorsque les attaques des loups, des chiens féroces font rage. Nous pouvons nous attacher à cet amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Parfois, ce ne sont pas simplement les circonstances de la vie qui font que des grandes douleurs s'invitent à notre vie, comme par exemple le séisme qui a frappé Haïti le mois dernier, ou encore cette tempête qui s'est invitée hier soir, qui a frappé quand même une bonne partie de la France. Tous ces événements qui nous arrivent et qui font que notre vie n'est plus la même, ces événements que nous n'avons pas forcément choisis. Dans ces circonstances où les mots, aussi recherchés soient-ils, ne peuvent nous consoler ni nous réconforter, dans ces circonstances dures, difficiles, nous pouvons nous rappeler de cet amour inconditionnel manifesté en Jésus-Christ pour nous. Même au cœur de la tempête, nous pouvons nous rappeler de la promesse que le Seigneur nous a faite aussi, bien avant l'arrivée de Jésus-Christ, par la bouche de son prophète Isaïe. « Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne sera pas ébranlé, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui a compassion de toi. » C'est Isaïe 54, verset 10. Même lorsque tout semble s'écrouler devant nous, l'amour du Seigneur reste une assurance sûre et bienfaisante. Il est le bon berger qui tient à chacun d'entre nous qui lui appartenant. Ce bon berger veille bien sur ses brebis. Il connaît les circonstances de la vie de chacune d'entre elles. En plus de connaître nos circonstances de vie, il nous connaît personnellement et il nous a appelés avec notre propre nom, comme il l'a appelé lui-même Israël par son propre nom dans l'Ancienne Alliance, Isaïe 49. C'est une connaissance donc personnelle que le berger a de ses brebis, que Jésus souligne dans les versets 14 et 16 du texte que nous avons lu. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, dit Jésus au verset 14. Cette connaissance profonde que Jésus a de ses brebis est une deuxième description dans ce passage de son amour, de l'amour du bon berger pour ses brebis. Jusqu'alors, l'amour de Jésus pour ses brebis s'est exprimé par le don de soi, le don quotidien pour prendre soin de ses brebis. Maintenant, Jésus va décrire son amour pour ses brebis sous une nouvelle facette, la connaissance mutuelle, la connaissance qu'il a, lui, de ses brebis. Cette connaissance découle, bien sûr, d'une relation profonde que Jésus a avec ses brebis, d'une connaissance profonde que Jésus a de ses brebis. Et cette connaissance, bien sûr, aussi, Jésus aussi favorise une relation qui permet cette connaissance, une relation donc de tendresse, de confiance. De cette relation est née une connaissance des brebis. Celles-ci font confiance à leur berger. Elles savent qu'il sait ce dont elles ont besoin. Elles savent qu'elles peuvent en effet compter sur lui et lui faire confiance en toutes circonstances. C'est pourquoi lorsqu'il les appelle, elles lui répondent favorablement. Elles connaissent sa voix. Elles la discernent parmi tant d'autres voix qu'elles entendent. J'ai un frère en Algérie qui est berger. Et quand nous avons été la dernière fois, je voulais me faire passer pour lui auprès des brebis. En plus, il y avait un petit peu, et c'était un peu sombre. Et j'ai imité exactement sa voix, etc. Mais les brebis ne m'ont pas suivi. Les brebis ont reconnu tout simplement que ce n'était pas le bon. Mais mon frère, quand il partait pour ses brebis, il ouvre la porte, il part. Il suffit juste qu'il les appelle, un mot suffit, et toutes les brebis le suivent. Le mercenaire et les étrangers, que Jésus dénonce justement dans le texte de Jean 10, tentent de se faire passer pour le bon berger, en imitant la voix du berger, mais les brebis ne les connaissent pas. Bien au contraire, le texte de Jean le dit au verset 5, et il nous dit que les brebis même fuient devant ces étrangers. La question qui se pose pour nous, c'est de savoir si nous arrivons à discerner la voix de notre Seigneur parmi toutes les voix que nous entendons chaque jour. Il y a tellement d'appels, il y a tellement de sollicitations, de préoccupations que le risque de ne plus savoir ou de ne plus entendre, de ne plus discerner la voix du bon berger est réelle pour les chrétiens que nous sommes. En plus de ce manque de discernement, il y a un autre danger, celui de la confusion des voix. Le risque de prendre notre voix pour celle du berger, ou bien le risque de prendre la voix des étrangers pour celle du bon berger. Le seul moyen qui peut nous épargner cela, c'est développer une relation personnelle, profonde, avec le bon berger, avec notre Seigneur. C'est en restant avec lui, c'est en restant à son écoute, en marchant avec lui, que nous arrivons à discerner ce qui vient de lui, de ce qui ne vient pas de lui. Marcher avec notre Seigneur, c'est prendre le temps régulièrement dans la méditation de sa parole. C'est prendre le temps régulièrement pour découvrir qui il est, tel qu'il est, comme il nous est présenté, cela nous a été présenté dans l'Écriture. Marcher avec le Seigneur, c'est prendre aussi le temps dans la prière, c'est prendre aussi le temps dans l'adoration, dans la louange. C'est marcher avec lui chaque jour et en toutes circonstances. C'est en gros faire tout pour la gloire du Seigneur. En tous les cas, le Seigneur Jésus invite à une relation qui se développe régulièrement et de plus en plus d'une manière profonde. Il nous invite, il invite chacun d'entre nous. Lui a une connaissance parfaite de nous. Quant à nous, nous avons un chemin, nous avons, je pense, toute la vie pour développer notre relation, pour connaître de mieux en mieux notre Seigneur, notre bon berger. Le Seigneur veut que nous le connaissions comme lui connaît le Père. Jésus veut que nous développions une relation avec lui comme lui aussi vit une relation parfaite avec le Père. Et Jésus exprime ce parallèle entre sa connaissance de ses brebis et sa connaissance du Père dans les versets 14 à 15. Je connais mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Le « comme » employé ici par Jean sert à décrire la profondeur de la connaissance que Jésus a de ses brebis. Cette connaissance est parallèle à celle qu'il a du Père ou que le Père a de Jésus. La connaissance entre le Père et Jésus est tellement profonde que Jésus dira dans le même chapitre, à la fin de ce chapitre, « Moi et le Père, nous sommes un ». Jésus veut que donc nous devenions un d'une certaine manière avec lui, dans le sens que notre pensée soit habitée par la sienne, que notre regard soit animé par le sien et que toute notre vie soit dirigée par lui. Je dirai Amen dans quelques instants. Après une vie, une connaissance, cette connaissance donc des brebis avec la connaissance du Père, et après donc il y a la connaissance qui communique par notre vie. Lorsque nous laissons la vie de Jésus nous diriger, Jésus nous diriger, par notre vie nous devenons des témoins aussi, des témoins vivants de cet amour, de cette connaissance de Jésus-Christ auprès de ceux et de celles qui nous entourent et que Dieu met sur notre chemin. Mais l'amour de Jésus s'est manifesté d'une manière suprême dans les deux derniers versets, les versets 17 à 18, là où il nous parle de son sacrifice. Il a donné sa vie. Il dit qu'il avait donné de son propre gré, par sa propre volonté. Personne ne l'a obligé. C'est un amour libre, c'est un amour total, c'est un amour entier. Il n'a pas reculé devant le sacrifice ultime. Et Jésus l'a fait pour nous. Donc, vraiment, l'amour du Seigneur reste, continue à nous habiter, qu'il reste aussi une référence pour nous, que nous passions par des moments faciles ou que nous passions par des moments difficiles, que nous soyons vraiment en toutes circonstances, que nous puissions garder cela dans notre cœur. Jésus, le bon berger, nous pouvons compter sur lui, car il a donné tout pour nous refuser aujourd'hui des interventions vraiment petites, des choses qui peuvent paraître à nos yeux grandes, mais qui sont, à vrai dire, à ses yeux, me semble-t-il, bien limitées et bien petites. Donc, c'est avec cette confiance que je nous invite à avoir cette confiance en toutes circonstances et en tout le temps, en notre Seigneur qui est le bon berger. Amen.